rencontre en ce 30 janvier, j'ai pensé, comme je vous l'ai annoncé déjà, parler d'un grand saint du XXe siècle, mais un saint qui n'est pas chrétien, quoiqu'il ait été fortement influencé par les évangiles, le Mahatma Gandhi, qui est décédé, assassiné en 1948. Il était né en 1869. Mohandas Karamchand Gandhi. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. L'an dernier, à pareille date, je vous avais parlé de Don Columba Marmion, ou Columba Marmion, puisque c'était un Irlandais, mais... un Irlandais qui a été abbé de la grande abbaye de Maretsu, et l'un des plus grands auteurs spirituels au milieu du siècle. Ses ouvrages étaient très, très lus. C'est une émission qui avait été bien appréciée, mais la veille, j'avais fait le fameux saint tibétain, le plus illustre de tous les saints tibétains, Milarepa. Comme quoi, cette émission est assez variée. Et aujourd'hui, donc, le Mahatma Gandhi. Dans sa préface aux lettres à l'ashram de Gandhi, il a laissé quelques lettres hein, pour essayer d'expliquer vraiment son point de vue. Le préfacier, M. Herbert, que j'avais déjà, Jean Herbert, que j'avais interviewé à Rencontre, à la télévision de Radio-Canada, écrit ce qui suit. Après avoir été tourné en ridicule et considéré comme un fou pendant 40 ans par la plupart des Occidentaux, il y eut de rares mais fort honorables exceptions, Gandhi est maintenant chez nous, en Europe et en Amérique, respecté comme l'une des plus grandes âmes de notre siècle et revendiqué comme leur maître, leur inspirateur et leur champion par quantité de groupes pacifistes, religieux, sociaux, spiritualistes et même occultistes et végétariens. Inversement, dans l'Inde, après avoir joui pendant sa vie d'un prestige plus grand peut-être qu'aucun homme avant lui, il risque maintenant d'entrer dans une phase d'éclipse, car les dirigeants, et même dans une moindre mesure les masses de son peuple, sont tentés de rejeter sur lui la responsabilité de toutes les difficultés auxquelles se heurte la nouvelle nation indépendante. Une fois seulement en prison, ajoute-t-il, il s'est laissé aller à mettre par écrit son enseignement dans une quinzaine de courtes lettres à ses disciples. Et l'intransigeance de ses principes moraux, exposés cette fois en dehors de toute contingence de lieu et de temps, nous sont donnés dans cet ouvrage qui est paru chez Albin Michel il y a déjà plusieurs années, « Lettres à l'ashram de Gandhi ». Je pourrais lire des extraits de ces lettres qui pourraient étonner tout le monde. Il y a des choses que j'ai le goût de vous lire tout de suite. Je dois prendre Dieu pour seul guide, écrit-il. C'est un maître jaloux qui ne laisse personne partager son autorité. Il faut donc se présenter devant lui dans toute sa faiblesse, les mains vides, et dans un esprit de complet abandon. C'est alors qu'il vous met en état de faire face au monde entier, et qu'il vous protège de tout mal. Il écrit aussi, « Réaliser Dieu est impossible sans une renonciation absolue au désir sexuel. » Il ajoute même, « Il n'y a aucun doute que ni l'homme ni la femme ne peut être viril ou fort sans observer le véritable brahmacharya, c'est-à-dire la chasteté. » Et enfin, il dit aussi, « Je maintiens qu'une vie de parfaite continence, en pensée, en parole et en acte, est nécessaire pour atteindre la perfection spirituelle. » Il ne serait pas très écouté aujourd'hui. Mais il a de très beaux textes sur l'humilité aussi, que je pourrais peut-être vous lire tout à l'heure. Alors, je m'inspire d'un très beau livre québécois, de Paul Meunier, « L'apôtre de la non-violence ». C'est un extrait d'un ouvrage... C'est l'apôtre de la non-violence, c'est sur Gandhi. C'est paru aux éditions Pauline il y a 2 ans. L'Inde, dit-il, est un pays magique. C'est constitué d'une mosaïque de peuples, de religions, de langues et de cultures, d'une diversité sans précédent sur la surface de la planète. Où de grandes conquêtes mystiques ont côtoyé quotidiennement une atroce misère matérielle. Un pays où il y a, disons, 150 ans environ, 300 millions d'hindous vivaient en frères avec 100 millions de musulmans. Ils sont beaucoup plus nombreux aujourd'hui, évidemment. Un pays profondément religieux, où ce qu'on appelle les fous de Dieu, ceux qui, quand on les voit à la télévision, on se dit, mais ce sont des exaltés. Mais ça existe aussi dans le christianisme à travers l'histoire, les fous de Dieu. Il y a des ouvrages très intéressants parus là-dessus. Vous pourriez fouiller dans les librairies et demander, avez-vous des livres sur les fous de Dieu? Et vous verrez comme l'exaltation spirituelle peut mener à d'étranges attitudes. Ou alors donc, les fous de Dieu dans l'hindouisme sont innombrables à cette époque, comme ils le sont encore un peu. Et au début du XXe siècle, donc, l'Inde est un sous-continent d'une grande pauvreté. Il y a 83% de la population qui se trouve analphabète. Imaginez, c'est énorme, hein? Le revenu moyen à cette époque-là, par habitant, n'atteint guère 10 cents par jour. C'est la pauvreté. Et encore aujourd'hui, ce pays est accablé par toutes sortes de fléaux naturels. On voit ça souvent dans les nouvelles. Et à cause d'une économie de type très féodal, avec des maharajas qui sont comme de grands seigneurs et qui ramassent des sommes fabuleuses, mais les retombées financières ne profitent qu'à une minorité de capitalistes anglais et indiens. C'est eux qui mettent l'argent dans leur poche. Puis il y a quelques riches et puissants propriétaires terriens, indigènes, des Indiens. Quand je dis des Indiens, c'est pour les distinguer des Hindous. Les Indiens, c'est... il y a des Hindous puis des musulmans. Les Anglais se sont établis officiellement en Inde au mois d'août 1858. Et du simple soldat au fonctionnaire, qui avait beaucoup de pouvoir, souvent, bien l'Inde a été assez bien administrée. Car en général, ces hommes n'avaient pas d'autre but que d'inspirer le respect de la justice et des lois britanniques à une civilisation qui était fondée sur cette grande inégalité sociale des castes et de bien d'autres choses. Mais les Anglais avaient un grand complexe de supériorité. Ils étaient assez versés dans le racisme. Leur petit nombre a privé les Anglais de contact réel avec les populations indigènes qu'ils gouvernaient. Mais cette grande épopée impérialiste s'est achevée avec l'indépendance de l'Inde en août 1947. C'est le fruit de l'action de Gandhi, en grande partie. En 25 ans d'action politique, les chefs des mouvements nationalistes indiens ont soulevé le peuple. Puis ils ont contraint le plus grand empire de l'histoire à renoncer aux joyaux de ses colonies. Ceux qui ont regardé à la télévision la vie de Churchill ont bien pu voir l'effondrement de cet immense empire qui est tourné à presque rien. Et dans le mouvement de libération de l'Inde, il y a un homme qui s'est levé pour proposer la voie de la non-violence. C'est comme ça qu'il a passé pour un fou. Au fond, il prêchait l'Évangile. Par cette doctrine, il a mobilisé le peuple indien afin de déloger cette présence anglaise en Inde. Et dans cette lutte contre l'Empire britannique, ce prophète de la non-violence qui a été le Mahatma Gandhi a réussi à substituer à toutes sortes d'affrontements sanglants bien une campagne politique morale. Il a échangé les armes conventionnelles contre celles de la prière. Et ce petit apôtre frêle de la fraternité, il pesait 115 livres, bien, il a soulevé le cinquième de l'humanité sans hausser la voix et sans technique de conditionnement des masses, là. C'était très simple, il était dépourvu des moyens modernes de communication. Son message de non-violence, il a pénétré quand même le sous-continent le plus peuplé de la planète. Cet homme savait parler à l'âme de l'Inde avec des gestes simples, faciles à comprendre, puis à mettre en pratique par l'ensemble de son peuple. Et cet homme, c'est Gandhi. Mohandas Karamchand Gandhi est né le 2 octobre 1869. Son père était le premier ministre, par hérédité, de la péninsule de Kathiawar. C'est une petite principauté qui est située au nord de Bombay. Il appartenait à la caste des commerçants, qui se situe, disons, dans la hiérarchie sociale hindoue, au-dessus des artisans et des serviteurs, Et en dessous des brahmanes, c'est-à-dire des espèces de prêtres au fond, hein, et des guerriers puis des princes. Sa mère était profondément dévote. Elle allait jusqu'à observer des jeûnes religieux, parfois très longs. Et selon les coutumes indiennes de l'époque, ben Gandhi se marie, savez-vous à quel âge? À 13 ans. À Kasturbai Makanji, une fillette analphabète, qui va lui donner 4 fils. Elle était très jolie. Elle est demeurée jolie longtemps, d'ailleurs. Et c'est avec une grande joie qu'il découvre les plaisirs de l'amour. Mais 4 ans plus tard, son père meurt. Étrangement, dans la chambre attenante à celle de ses jeunes époux, pendant qu'il s'adonnait à des ébats amoureux, justement. Et Gandhi développe alors un complexe de culpabilité qui lui fait entreprendre un des plus grands défis de sa vie, celui de dominer ses pulsions sexuelles, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors, le 4 septembre 1886, Gandhi a presque 19 ans, sa famille l'envoie étudier le droit en Angleterre dans l'espoir qu'il va succéder à son père comme premier ministre du Kathiawar. Et puis, il est le seul enfant de sa famille à étudier à l'étranger. Alors, il est donc exclu de sa caste de marchands, car aux yeux de ses aînés, un tel voyage ne peut que le souiller et le perdre. Alors, c'est un garçon particulièrement timide, hein, le futur avocat est malheureux à Londres. Un jour, il adresse la parole à un Anglais, et la première fois, pas longtemps après son arrivée, et c'est pour lui difficile, il s'empresse finalement de rentrer au pays dès son admission au barreau, le 18 juin 1891, car il a vécu très difficilement là-bas. Il a 21 ans, il souffre toujours de cette timidité maladive. C'était pas un très bon avocat. Mais sa famille, déçue, l'envoie en Afrique du Sud en 1892, bon, à 22 ans, pour défendre un parent éloigné. C'est le tournant décisif de sa vie. En juin 93, l'année suivante, au cours d'un voyage en train de Durban à Pretoria, il va vivre ce qu'il considérera plus tard comme l'expérience capitale de sa vie. C'est une expérience raciste. Comme tout avocat londonien, il voyage en première classe. Puis là, un blanc lui ordonne de quitter son compartiment pour le wagon à bagages, imaginé. Devant son refus, un policier l'expulse du train au premier arrêt. Et seul, en pleine nuit et gelé jusqu'aux os, Gandhi passe une nuit froide en proie à une profonde révolte. Il implore les dieux du Bhagavad Gita et de lui donner le courage et la lumière pour affermir et guider ses pas. Il prend à l'aube, à la gare, la plus importante décision de son existence. À l'avenir, le jeune avocat timide dira non. Et en disant non à la bêtise, il va devenir cet homme qui va prendre la parole à Pretoria devant un public indien et miraculeusement, sa gêne maladive va faire place à la fermeté d'un discours bien posé où il exhorte les Indiens à s'unir pour défendre leurs droits. Alors il lit Ruskin, un philosophe anglais qui est né à Londres en 1819. Il lit Unto This Last. Il lit évidemment la Bhagavad Gita. Et puis il lit le sermon sur la montagne de Jésus. Et il est profondément touché. Alors Gandhi, qui était allé en Afrique du Sud pour défendre un proche, gagne son procès. Il devient un avocat illustre. Je vous ai dit qu'il avait lu John Ruskin, Unto This Last, et ça, ça l'impressionne énormément. Parce que selon Ruskin, l'important est le service de la société. Ce qui peut réussir aussi bien un simple paysan qu'un avocat florissant. Et la richesse, dit-il, engendre l'esclavage. Puis la servitude, sous toutes ses formes. Alors il faut donc renoncer aux biens matériels pour servir véritablement nos frères. Et tel est le prix à payer pour aimer et servir véritablement la cause de l'homme, dit Ruskin dans son ouvrage. Alors il est animé par ces élans intérieurs-là. Et Gandhi restaure une ancienne baraque près du village de Phoenix, à 20 kilomètres de Durban, ou Durban, où il s'installe avec sa famille et quelques amis. Puis une vie communautaire surgit de tout ça. Renoncement aux biens de ce monde, travail permettant de subvenir à l'existence. Selon le Mahatma, nettoyer les cuvettes a la même valeur que construire une résidence ou défendre les Indiens contre l'injustice raciale. On rejoint là la pensée de Sainte Thérèse d'Enfant Jésus et la pensée du christianisme le plus profond. Le difficile vœu de continence, de chasteté, obsède Gandhi, tout autant que ça l'attire. Et par ce vœu, mais il rejoint l'idéal du Bhagavad Gita, c'est-à-dire, qui est le livre, un des livres principaux hein, de la religion hindoue, qui est écrit à peu près aux environs de la naissance de Jésus-Christ. Alors, c'est de vivre sans désir. Et puis, la chasteté implique le contrôle des cinq sens, pas simplement l'appétit sexuel, c'est le contrôle des appétits sexuels, mais aussi le contrôle des émotions, de la parole, de l'alimentation et surtout des sentiments de haine, de colère et de violence. Alors Gandhi est convaincu que seule la maîtrise des sens peut lui donner la parole, là où la force d'accomplir sa mission terrestre. Le vœu de la Brahmacharya, c'est-à-dire tout ce dont je viens de vous parler, cristallise son engagement sans retour. Sur des rudes sentiers de la cèse, il devient une sorte de saint, quoi. Il est convaincu, décidé pour toujours. Et 40 années plus tard, il va avouer que la sublimation de ses pulsions sexuelles demeure aussi difficile. Et au cours des nombreuses luttes pour faire accéder les Indiens au respect par l'égalité raciale, Gandhi a été frappé par le texte de l'Évangile sur la vengeance, qui est dans Saint Matthieu, chapitre 5, où vous avez appris qu'il a été dit « œil pour œil et dent pour dent ». Et Jésus dit « Et moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants ». Au contraire, si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. Et à partir de ce texte, il a formulé les deux principes fondamentaux qui l'ont rendu célèbre par tout le XXe siècle, la non-violence et la désobéissance civile. Il disait, Gandhi, « On ne change pas les convictions d'un homme en lui tranchant la tête, pas plus qu'on insuffle l'amour dans un cœur en le transperçant d'une balle. » Si les intégristes musulmans comprenaient ça. Hein? La violence engendre la violence, dit Gandhi. Œil pour œil rendra le monde aveugle, disait-il aussi. Alors, il lit aussi de Henry Thoreau, ce grand penseur américain qui vivait pas loin d'ici, en Nouvelle-Angleterre, dans le Massachusetts. Au siècle dernier, il lit le devoir de désobéissance civile. Il lit Tolstoï aussi, « Le royaume de Dieu est en vous ». Et puis, finalement, il est jeté en prison, il en sort, et puis il quitte définitivement le continent africain en 1914, à la veille de la guerre. À son arrivée à Bombay, l'année suivante, en janvier 1915, une foule immense vient de l'accueillir. Le prophète de l'amour est le premier leader indien à se pencher aussi concrètement sur la misère et les conditions sous-humaines des populations de l'Inde. C'est pour cette raison que Rabindranath Tagore, j'espère que vous avez déjà lu ce poète qu'on lisait quand j'étais jeune, je vous en lirai des poèmes, j'espère, de lui, Rabindranath Tagore, un jour en parlant de lui, et de son père aussi, qui était une sorte de saint, mais il lisait... C'est pour cette raison, donc, que Rabindranath Tagore, poète indien, puis lauréat du prix Nobel de la paix, hein, lui octroie le titre de Mahatma. C'est de là que ça vient, la grande âme. C'est ça que ça veut dire, Mahatma, la grande âme, hein, vêtue des haillons et des haillons des mendiants. Et ce titre honorifique va l'accompagner jusqu'à sa mort. Alors, on voit des femmes qui prennent le commandement d'actions de masse, de grande envergure. Et elles aussi, par milliers, connaissent l'inconfort des prisons de la couronne. Hein? Parce que Gandhi voulait avant tout libérer les femmes de leur servitude, c'est-à-dire les sortir du cercle étouffant où une société patriarcale les avait confinées. Ils les avaient confinées uniquement dans des tâches domestiques et serviles. Il faut bien considérer que dans les tâches domestiques, la grande, grande tâche de l'éducation des enfants, qui est la plus belle de toutes. Mais elles étaient confinées... à ce qu'il y avait de plus pénible. Et dès la fondation de son premier ashram en Afrique du Sud, hommes et femmes partageaient les travaux domestiques, et ça surprenait tout le monde. Les femmes avaient ainsi du temps libre pour participer à la vie sociale et politique de leur communauté. Et ce qu'elles ont fait avec vigueur et rigueur, hein? Ils disaient, il est vain d'espérer l'émancipation des Indes aussi longtemps que les femmes indiennes elles-mêmes ne seront pas émancipées. Ce qu'il entendait par émanciper, il s'en est bien expliqué là-dessus. Et c'est dans un ouvrage de Dominique Lapierre et Collins là, qui disent « La société indienne, qui moins d'un siècle plus tôt, condamnait encore les veuves à se précipiter dans le bûcher funéraire de leur mari, avait cependant tellement évolué sous l'impulsion du Mahatma Gandhi qu'un des ministres du premier gouvernement de l'Inde indépendante était une femme. Et le Mahatma a été l'étincelle qui a allumé le feu de l'égalité. Il a fait comme Jésus. Quand on lit bien les évangiles, on voit toute la recherche de l'égalité des hommes et des femmes qu'a fait Jésus. C'est extraordinaire ce qu'a fait Jésus. Un jour, je vous parlerai de ça. Et le Mahatma, donc Gandhi, y a été cette étincelle. Il a permis de créer des rapports plus justes entre les sexes. Il s'oppose continuellement, toutefois, à l'usage de moyens contraceptifs, artificiels, pour résoudre ce grand problème de la surpopulation de l'Inde. Car cela, disait-il, va à l'encontre de ma vision de la médecine naturelle. Pour Gandhi, seule la continence, l'abstention de rapports sexuels, quoi, était acceptable pour limiter l'accroissement de la population. Il y a des méthodes sérieuses qui sont proposées de nos jours pour ça. Et en 1919, un acte interdit puis sanctionne sévèrement toute action qui a pour objectif la libération de l'Inde. Le 1er février 1922, Gandhi fait un pas de plus dans la lutte pour l'indépendance de l'Inde, en passant de la non-coopération à la désobéissance civile. Cela signifie purement et simplement une déclaration de guerre au fond contre l'Empire, les Anglais. Il demande clairement à la population de l'Inde de ne plus payer d'impôts imaginés à la couronne britannique, le couronne impériale, et de ne plus suivre les lois anglaises. Et depuis, il invite vivement les soldats indiens à abandonner l'armée impériale. Gandhi déclare « Les Anglais veulent nous contraindre à placer la lutte sur le terrain des mitrailleuses, car ils ont des armes et nous, nous n'en avons pas. Notre seule chance de les battre est de porter le combat sur un terrain où nous possédons des armes et eux, et quelles sont ces armes? Vous verrez, ce sont les armes de la prière, de la douceur, du respect de ce que dit Jésus dans l'Évangile, dans Saint Matthieu, et de ce qu'enseigne Jésus aussi dans le Sermon sur la montagne. Et Gandhi n'était pas chrétien. C'était un hindouiste. Un autre geste simple qui va unir les communautés de l'Inde, c'est la fameuse marche du sel. Donc, je vous ai promis de vous parler de cette fameuse marche du sel. Qu'est-ce que c'est que la marche du sel qui a transformé l'Inde? Faut dire que le sel, hein, c'est très, très nécessaire dans un climat torride comme celui de l'Inde. Le sel est vital dans l'alimentation quotidienne là-bas. Les Anglais s'étaient appropriés la distribution exclusive du sel. Ils y avaient mis une taxe qui, bien que minime, représentait 2 semaines de salaire pour le pauvre paysan. Mais le sel est à la portée de tous au bord de la mer sous la forme des grandes dunes blanches. Là. Il suffit d'aller le chercher. Alors est arrivé un événement fantastique en 1930, le 12 mars, assez tôt le matin, à 6h30. Le Mahatma Gandhi, qu'on appelait le père de la nation, est accompagné d'un cortège de 79 disciples. Alors, ils partent en direction de l'océan Indien. Et puis, au cours de la route de 400 kilomètres, des chroniqueurs internationaux, des journalistes, des paysans locaux aussi se joignent à cette caravane qui augmente constamment. Une centaine de milliers de personnes finalement se mettent alors à récolter le sel, à le purifier. Jamais auparavant, les Anglais n'avaient incarcéré autant de gens, dont Gandhi évidemment. Et à sa mort, il aura passé plus de 6 ans, d'ailleurs, de sa vie dans des prisons très inconfortables, hein, de l'Empire anglais. Mais avant d'être emprisonné, il a affirmé au peuple indien, « L'honneur de l'Inde a été symbolisé par une poignée de sel dans la main d'un homme de la non-violence. Le poing qui a tenu ce sel peut être brisé, mais le sel ne sera pas rendu. » Alors, à partir de cette grande épopée de la marche du sel, Gandhi devient mondialement célèbre. En février 1931, le vice-roi le fait libérer de prison. Il l'accueille chez lui pour un entretien en tête-à-tête. Winston Churchill est outré. Et regardez comment Churchill parle avec mépris, parler comme ça des Irlandais. Vous savez que Churchill a déjà dit des Irlandais qui lui tombaient tellement sur les nerfs, les Irlandais, que la seule chose à faire avec l'Irlande, c'était de mettre une bonne bombe en dessous de l'Irlande pour que ce pays, cette île, disparaisse dans l'océan. Voilà comment pouvait être cet étrange bonhomme Winston Churchill. Alors il est outré, dit-il, de voir ce fakir séditieux gravissant à demi-nu les marches du palais du vice-roi pour discuter et négocier d'égal à égal avec le représentant du roi-empereur. Voyez tout le racisme de Winston Churchill en 1930. J'espère qu'il est mort autrement. Alors, le 22 février 1944, beaucoup plus tard, la femme de Gandhi meurt. Et dès lors, la santé de Gandhi se détériore. Il est affligé de dysenterie amibienne et de malaria. Il a 74 ans. C'était en mars 1947, 3 ans après la mort de sa femme, que Gandhi rencontre en tête-à-tête le nouveau vice-roi des Indes. Celui-là, c'est Lord Mountbatten, qui est assassiné par les Irlandais, justement. Par des Irlandais, devrais-je dire. Il se rend compte au sujet de la souveraineté très prochaine de tout ce grand sous-continent indien. Et pour Gandhi, la seule chose qui compte réellement, c'est de sauver l'unité de l'Inde et de refuser la séparation du pays entre musulmans et hindous. Parce qu'ils ne s'entendent pas du tout. Il y a eu toujours des disputes entre ces deux groupes où il y a des fanatiques, malheureusement, qui troublent l'harmonie. Alors, il est prêt à faire des concessions importantes pour éviter cette partition. Et c'est une discussion très difficile. Dans la vision de Gandhi, le développement de l'Inde passe premièrement par la mise en valeur des campagnes puis des villages. Il ne veut pas d'imitation du modèle économique et social de l'Occident. Pour lui, la société occidentale représente un univers qui est dominé par les machines. Il trouve que dans l'Occident, les populations rurales sont aspirées par l'attrait trompeur des grandes villes, on le voit bien, n'est-ce pas? Nos campagnes sont désertées. Quand on se promène dans la campagne, c'est triste de voir ces grandes fermes abandonnées, les granges qui sont ruinées, les maisons qui sont placardées de planches dans les fenêtres et tout ça. Il n'y a plus personne. Alors c'est un cauchemar pour lui. Une société où l'homme, coupé de ses racines ancestrales, religieuses et familiales, vivrait pour produire une multitude de biens de consommation non nécessaires à sa subsistance et à son véritable bonheur, ça lui fait peur. Il dit, un des objectifs d'une civilisation authentique, c'est de limiter les besoins de l'homme, afin que tous aient au moins le nécessaire vital, pour vivre de façon décente et s'épanouir. C'était un homme encore qui est inspiré par l'Évangile, le partage. On voit ça dans les Actes des Apôtres, le partage. Alors, ses amis du Congrès partagent pas la vision sociale et économique du Mahatma. Il y a le fameux socialiste Nehru, le capitaliste Patel, qui croit au progrès, à la technologie, au développement industriel et aux machines. Et ce credo de tous ces gens-là, unis dans la même visée politique des hommes très différents. Gandhi, au contraire, lui, croit en une Inde où les valeurs spirituelles et humaines subordonneraient et orienteraient l'action politique puis le développement de la technologie, non l'inverse. Une Inde, en résumé, où les hommes seraient tournés vers Dieu et vers le service de leurs frères plus démunis. Il voudrait des hommes religieux, des hommes de foi. Il rêve, mais c'est le rêve profond de tous les hommes sincères croyants dans l'univers. Un vrai chrétien ne peut que parler comme ça. Nous rêvons d'un monde où les hommes seraient tournés vers Dieu et vers le service de leurs frères les plus démunis. Il prônait fermer les usines textiles, réapprenez à filer avec le rouet de bois ancestral afin d'annihiler le chômage et l'exode vers les grands centres urbains. C'était un utopiste. Il aspire à une société sans classe sociale. Ça, ils en avaient bien besoin en Inde. où tous les métiers et les professions seraient considérés moralement et financièrement égaux. Et pour lui, mais les grands conflits, les grands conflits sociaux trouvent leur source dans cette inégalité économique et sociale et morale. Et ainsi, une Inde nouvelle, fondée sur l'égalité puis la fraternité, construirait une nation sans véritable conflit social. On retrouve là même Saint-Paul, hein, où il n'y aurait plus personne de différent, tout le monde serait comme ça. C'est prêché par le Nouveau Testament depuis 2000 ans. Ça a été répété par nos penseurs chrétiens, par les papes depuis toujours. Mais on n'y arrive pas. Le rouleau compresseur de l'égoïsme est dans notre civilisation. Et en fait, le système des castes de l'hindouisme, les castes, hein, vous connaissez ça, est responsable de la séparation entre hindous et musulmans, puis entre hindous eux-mêmes. Une grande partie de la population hindoue est constituée de parias, les intouchables, hein, auxquels il faut même pas parler. Le simple contact physique de ces personnes hors caste, au plus bas niveau de l'échelle sociale, est considéré comme une souillure. Quelle étrange religion qui enseigne des choses pareilles. Hein. Plusieurs d'entre eux se sont convertis d'ailleurs à l'islam à cause de ça, parce que la religion musulmane les réhabilite dans une grande fraternité. Il y a aussi beaucoup de catholiques en Inde, particulièrement dans le Kerala, le sud de l'Inde, où ils sont chrétiens depuis 2000 ans. Hein. Ils se sont unis en grande partie à notre Église catholique. Et je paie moi-même les études de certains prêtres de cette Église, où les gens sont souvent bien pauvres. Et l'Inde nouvelle, rêvée par Gandhi, abolirait le système discriminatoire des castes. Tous les habitants seraient donc égaux. Alors, le Mahatma Gandhi ne fait pas que parler ou rêver, non. Il s'efforce d'abord de mettre en pratique tout ce qu'il rêve pour l'ère nouvelle. Car il croit à la puissance d'une vie exemplaire, surtout quand l'exemple vient des chefs. Et en ce sens, Gandhi ne peut être taxé d'idéaliste ou de veilleur rêveur, comme je viens de le faire un peu. Parce que c'est vrai qu'il faut admettre qu'il est un des grands prophètes socialistes de son époque, un des rares à vivre selon son idéal et ses principes. Il y a des explosions de violence dans le Bengale qui conduisent Gandhi, à l'âge de 77 ans, à entreprendre en novembre 46 un pèlerinage de pénitence de 4 mois dans les villages de cette province. Ce sera ma dernière grande expérience. Il travaille par le pèlerinage. Hier, je vous ai parlé de Saint-Paul qui faisait ce grand pèlerinage en Terre Sainte. Et les pèlerinages existent encore et sont très populaires encore aujourd'hui en Occident, malgré la faiblesse du christianisme. Le pèlerinage est une démarche profonde, une mise en branle de tout notre être vers un but spirituel qui symbolise la grande démarche intérieure de sanctification, de transformation. Alors il fait ses pèlerinages, dans le but, je dirais, d'évangéliser, mais c'est en fait de prêcher ce qu'il y a de plus beau dans la Bhagavad Gita. Une grande partie des villages n'étaient plus que ruines, les musulmans massacraient et pillaient tous les hindous qu'ils croisaient sur leur passage. Ces musulmans donnaient suite à la journée d'action directe organisée par Jinnah, qui avait causé la mort de milliers d'hindous à Calcutta. Mais les représailles hindoues dans la province du Bihar risquaient à tout moment d'embraser l'Inde en une guerre fratricide. De part et d'autre, on tournait à la violence. Alors, au début de janvier 47, l'année de l'indépendance, Gandhi réside dans un village au Bengale. Et à 50 kilomètres du télégraphe, sans radio ni eau courante, il exerce depuis cette région son autorité morale sur tout le sous-continent indien. Il a un tel pouvoir moral, c'est la sainteté qui fait ça. Et toutefois, il est stupéfié de voir ceux qui l'ont suivi dans la quête ardue de l'indépendance de l'Inde, qui ne comprennent pas en profondeur son message de fraternité. Il a le cœur brisé par la sauvagerie de ses compatriotes et par la menace grandissante de la partition de l'Inde. Il répétait constamment « Tous les Indiens sont frères ». Et son pèlerinage de pénitence le conduit de village en village. Il veut leur rallumer la lampe de la fraternité. Par sa présence, son message d'amour, oui, d'amour. Il ose même s'aventurer dans des villages à forte concentration musulmane. Les pieds meurtris du Mahatma Gandhi l'ont porté pendant 30 ans dans des villages les plus reculés de l'Inde, dans des colonies de lépreux, dans des bidonvilles, dans les riches palais impériaux, puis dans les cellules des prisons britanniques. Mais peu importe où il va, un but ultime guide ses pas. C'est la libération non violente de l'Inde et la tolérance religieuse. Ah, c'est ça qu'il veut, la tolérance religieuse. Et à un groupe de responsables politiques venus chercher sa bénédiction, il déclare « Méfiez-vous du pouvoir, car le pouvoir corrompt. Ne tombez pas dans les pièges, n'oubliez pas que votre mission est de servir les pauvres des villages de l'Inde. » Dans l'après-midi du 15 août 1947, le rituel de la prière de Gandhi attire la foule de 30 000 personnes venues de partout pour l'entendre, et du haut d'une estrade de bois, fortuite, là, il remercie de tout cœur l'Assemblée pour la victoire éclatante de l'amour et de la raison sur la haine religieuse. Il fait un jeûne pour établir la paix toujours, rétablir la conversion du cœur des hommes. Et quelques heures auparavant, dans la capitale, sur le dernier coup de minuit du 15 août 1947, c'est curieux, c'est la fête de l'Assomption ce jour-là pour nous chrétiens. Eh bien, le premier ministre de l'Inde, Jawaharlal Nehru, improvise un discours pour marquer officiellement l'indépendance de son pays. Il dit sur le coup de minuit, quand dormiront les hommes, l'Inde s'éveillera à la vie et à la liberté. L'instant est là, un instant rarement offert par l'histoire, quand un peuple sort du passé pour entrer dans l'avenir, quand une époque s'achève, quand l'âme d'une nation longtemps étouffée retrouve son expression. Aujourd'hui, nous devons construire la noble demeure de l'Inde libre, accueillante pour tous ses enfants. Et au 12e coup de minuit, bien, le premier chef du nouvel État indien demande à la foule rassemblée, en cet instant historique, de se lever, de prêter le serment solennel, de servir l'Inde et son peuple libre. Et le dernier coup de minuit marque la fin d'une longue lutte vers l'indépendance de l'Inde, qui, selon toute probabilité, aurait été impossible sans son artisan, Mohandas Karamchand Gandhi, ce saint admirable. Le 16 août 47, c'est le lendemain des grandes festivités, le vice-roi remet aux deux premiers ministres des États souverains, Nehru et Jinnah, le plan de partition gardé secret. Et petit à petit, bien, le miracle de Calcutta et de la paix a duré 16 jours. Le 31 août 47, le vaccin de la fraternité administré par Gandhi perd son effet magique. Et là, les disputes reviennent, et la haine revient. Et pour son 118e anniversaire, soit le 2 octobre 1947, Gandhi choisit de passer la journée à prier et à filer sur son vieux rouet de bois. Il reçoit des milliers de télégrammes, de lettres, de messages d'affection de ses fidèles et de des admirateurs d'un bout à l'autre du monde. En décembre 47, son idéal à la fois sociopolitique et spirituel ne peut empêcher les musulmans de quitter leur ville par peur des sikhs fanatiques. Vous savez, ceux qu'on voit dans nos villes avec des turbans, là. Et le 13 janvier 1948, à 11h55 de l'avant-midi, le Mahatma Gandhi entreprend à 78 ans son dernier jeûne, et nous verrons comment il offre son jeûne à Dieu, afin que Dieu extirpe la haine du cœur de tous les Indiens. Après deux jours de jeûne, le jeudi 15 janvier 1948, la santé du Mahatma Gandhi atteint un état critique. Et après 121 heures et demie de grève de la faim, ce grand apôtre de la réconciliation puis de l'amour accepte de manger un peu. À 12h45, en ce dimanche 18 janvier 1948, il réussit seul ce qu'aucune armée n'aurait pu réaliser. Il met fin au vent de haine religieuse qui ravageait le cœur des Indiens. Ce soir-là, du 18 janvier, le darshan de l'apôtre de l'amour a donné lieu à un spectacle pathétique d'une grande valeur spirituelle. Depuis la marche du sel entreprise en 1930, dont je vous ai parlé tout à l'heure, Gandhi n'a jamais eu autant de témoignages d'affection de la part du monde entier. Mais les hindous intégristes, c'est donc fatigant. Le voyage projeté, qui eux, ils militent, ben, pour les hindous intégrés, c'est le voyage projeté du Mahatma en sol musulman. Ça sert de catalyseur à leur frénésie religieuse et nationaliste. Et ils se disent, il faut supprimer Gandhi. Le temps presse. Il décide, demain mardi, nous passerons à l'action. Alors le 20 janvier 1948, dans une tentative manquée d'éliminer celui qu'il qualifie de responsable du massacre de centaines de milliers d'hindous, eh bien, ils se reprennent, ils veulent se reprendre, c'est une tentative manquée. Et pendant la réunion de prière, il y a un dénommé Gortzi qui a une grenade qu'il prépare précieusement pour le Mahatma. Et puis là, il décide d'aller tuer Gandhi, mais elle explose finalement loin de Gandhi. Et Gandhi dit, écoutez, ce sont des militaires qui font des exercices, asseyez-vous, restez calme. Il ne croit pas que vraiment on veut le tuer. Plus tard, à environ 1200 kilomètres au sud-ouest de la capitale, dans la banlieue de Bombay, trois des comparses de l'attentat tiennent une réunion clandestine, et ce fameux Gotsi, c'est lui qui va le tuer. Il prend la parole et dit, nous avons échoué le 20 janvier parce que nous étions trop nombreux. Il n'y a qu'une façon de supprimer Gandhi, il faut qu'un seul de nous s'en charge et ce sera moi. Alors, comme à l'accoutumée, sa dernière journée sera débutée par la prière à l'aube et ce matin du vendredi 30 janvier 1948. Il avait choisi les deux premiers versets des 18 dialogues de la Bhagavad Gita, je vous lis ça. Car la mort est certaine pour ce qui naît. Et certaine la renaissance pour ceux qui meurent. Devant l'inéluctable, pourquoi t'apitoyer? C'est un texte d'abandon, quoi. Alors Gandhi arrive un peu plus tard à la réunion de prière. Une foule pieuse s'était massée sur les pelouses de Birla House pour voir son darsan, sa prière. Et un homme imposant, vêtu d'un uniforme kaki, fait alors un pas en avant. C'est Gotse. G-O-D comme God, c'est terrible, hein? C-S-E accent aigu. Il s'adresse au Mahatma, les mains jointes, selon la traditionnelle salutation hindoue, et sans se douter de rien, Gandhi avance vers lui dans le passage en saluant avec dévotion ses fidèles. Gandhi est à 2 mètres de Gotse quand celui-ci s'avance à son tour dans le couloir. Son revolver est caché entre ses mains jointes. Gotse s'incline avec révérence devant le saint homme. Manu, la petite nièce de Gandhi, s'apprête à le relever. Elle croit qu'il voulait toucher les pieds du Mahatma. Gotse la repousse violemment en pointant son revolver sur Gandhi. Il tire 3 coups de feu à bout portant et le Mahatma est atteint à la poitrine. La petite Manu, la nièce, voit des taches rougir, son kaki immaculé. « Et Ram, dit-elle, ça veut dire « Oh mon Dieu, Ram, Rama ». Et Ram murmure à son tour Gandhi dans un souffle, puis il s'affaisse lentement dans l'herbe, les paumes toujours serrées l'une contre l'autre, un ultime geste venu de son cœur, un geste d'offrande et de salut à l'adresse de son assassin. Et à 18h, un communiqué radiophonique annonce au peuple de l'Inde la triste nouvelle de l'assassinat de Mohandas Gandhi. Là, le Mahatma Gandhi a été assassiné à New Delhi cet après-midi à 17h17. Son assassin est un hindou. Heureusement que Gotse est un hindou extrémiste. Car si l'assassin avait été un musulman, le pays aurait sombré dans une explosion de violence. L'Inde venait donc d'échapper à un massacre et il ne restait plus qu'à pleurer celui qu'on appelait la grande âme, Mahatma. La mort brutale de Gandhi laisse ses proches complètement atterrés et bouleversés, désemparés. Le dernier vice-roi des Indes prend alors en main l'organisation des funérailles du Mahatma. Ce sera sa manière de rendre un ultime service à l'Inde. Et Gandhi avait commencé sa lutte pour l'indépendance de sa patrie par une journée nationale de deuil. Un quart de siècle plus tard, l'Inde marque son passage vers l'au-delà, dans le silence et le recueillement d'une autre journée nationale de deuil. Usines, bureaux, commerces, gares, tout est paralysé par une journée de deuil en son honneur. Et de la terrasse de Birla House, la foule peut apercevoir la dépouille du Mahatma exposée au premier étage, et des milliers de personnes viennent de partout afin de prier, oui, de prier, et de voir l'apôtre de l'amour. Son véritable assassin, c'est quoi? C'est la haine, c'est l'intolérance religieuse. Selon la photographe Bourke White, qui assiste au cortège funéraire du Mahatma à New Delhi, elle dit « C'est la plus grande foule qui se soit sans doute jamais rassemblée sur la surface de la Terre. 1 million de personnes, estime-t-elle. J'ai des nouvelles pour elle. Je sais que le pape en ramasse souvent 1,5 million, 2 millions et 4 millions. Jean-Paul II. Bien oui. Mais on n'en parle pas, ça, c'est catholique. Je taquine. Des fois, ça me fâche quand je lis des sortes de choses comme ça. La civière, peut-être qu'à l'époque des funérailles de Gandhi, c'était la première fois, mais il y avait aussi 1 million de personnes, quelques années plus tôt pour les funérailles du frère André. La civière prend ensuite la route du bûcher royal, qui est érigé sur une des rives d'une rivière, dans un site sacré. Et puis Gandhi allait à jamais se fondre dans l'âme collective de son peuple, comme une goutte d'eau au milieu de l'océan. Et on le vénère comme un saint. Hein? Les disciples le vénèrent tout de suite comme un saint. Et il disait, « Je souhaite l'avènement du royaume de Dieu sur la terre. » Il souhaitait l'avènement du royaume de Dieu sur la terre. J'ai trouvé une belle prière écrite par un hindou. C'est un psaume. « Qu'il est doux le souvenir de Jésus » remplissant le cœur de joie, mais plus doux que le miel, et tout est sa présence. Il ne se chante rien de plus suave, rien ne peut s'entendre de plus agréable, nulle pensée n'est plus douce que Jésus, le Fils de Dieu. Ô Jésus, espoir des pénitents, que vous êtes tendre pour ceux qui vous implorent, bon pour ceux qui vous cherchent, mais que n'êtes-vous pas pour ceux qui vous trouvent? Ni la langue ne peut dire, ni l'écriture exprimer ce qu'est aimé Jésus. Celui-là peut le croire qu'il l'a éprouvé. C'est curieux, hein? C'est un psaume de Chandidas. C'est un peu dans l'esprit de Saint Bernard. Et il a vécu au XVIe siècle. Ça vient de l'Inde.